Antoine, c'est à vous. Bon, bonjour à tous. Bon, écoutez, je me lance dans quelque chose de difficile parce que, en fait, ça fait depuis longtemps que je suis venu au port de Rotterdam. Mais je ne sais pas si vous avez vu là, en arrière sur la gauche, vous avez vu des terminaux à conteneurs. C'est la partie, si vous vous rappelez les cartes qui vous ont été montrées, c'est plutôt la partie du port qui correspond aux années 30 et puis juste après la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, dans cette partie-là du port, ils font du conteneur, mais ce qu'on appelle le shorty, c'est-à-dire ce qui est essentiellement dédié à le trafic intra-européen. Donc, alors que sur Maasvlakte, qui est à 40 km, c'est vraiment les trafics deep-sea, donc de maritime pour l'international. Et donc il y a en fait un peu une séparation entre les deux types de trafic, et avec notamment pour le shorty du conteneur européen à même d'accueillir de la palette, parce que en fait le conteneur maritime n'est pas adapté à la palette routière, et donc le conteneur n'est pas forcément si intermodal que ça. Et là, vous voyez sur votre droite, vous avez donc les raffineries. Et donc là, on a en fait quitté le port du 19e et de la première et de la juste après la guerre pour être dans l'Europort, donc qui a été celui des années 60. Et comme donc ça vous a été dit, il y a 5 grosses raffineries qui sont installées sur le port de Rotterdam. Et donc le trafic, hein, sur un trafic de 466 millions de tonnes, le pétrole brut, c'est un peu plus de 100 millions de tonnes trafic. Donc là, avec Europort, on est vraiment dans la zone industrielle portuaire, et ce qui a fait le développement des ports en Europe, en Asie, Japon et aux États-Unis, ce qui a fait le développement des ports pendant la période des Trente Glorieuses, où toutes ces industries lourdes étaient les industries motrices de la période. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, toutes ces industries restent des industries de pointe parce que les process en fait, industriels ont été considérablement modernisés. Et donc ça s'est traduit par en fait des pertes d'effectifs à l'intérieur de chacune de ces grands ensembles industriels qui sont extrêmement importants. Intéressant au niveau des Pays-Bas, le port de Rotterdam accueille donc tout ce qui est tout le complexe de raffinage et de la pétrochimie. Les cinq grandes raffineries, c'est un peu plus de 3000 employés, donc vous voyez que c'est pas forcément énormément de personnes. Mais si on rajoute le complexe pétrochimique autour, on atteint 13 000 personnes. Et puis là, vous n'avez pas de sidérurgie à Rotterdam, mais la sidérurgie, elle est à Amsterdam, et plus exactement à IJmuiden. Donc, de la même façon, il y a un canal qui permet d'aller sur la mer du Nord, et c'est une grande usine. Alors, je crois que c'est ArcelorMittal. Je ne sais plus si c'est ArcelorMittal ou un autre groupe qui est à IJmuiden. Comme ça a été un petit peu esquissé dans la présentation, tous les ports européens tremblent. Tous les ports européens qui ont des complexes pétrochimiques de raffinage et pétrochimiques importants tremblent sur leur base actuellement très fortement, puisque les trafics pétroliers étaient jusqu'à présent complètement captifs. C'est-à-dire que c'était le principe de la zone industrielle portuaire, de l'industrie sur l'eau, et donc de faire venir le navire dans l'usine et d'importer les matières premières des pays où se trouvent ces ressources, donc les pays du Golfe notamment. mais aussi pour l'Europe, il y a eu une diversification avec les champs de la mer du Nord. Mais enfin, c'était le principe de la zone industrielle portuaire. Je fais venir le navire dans le port, au pied de l'usine, et donc il y a une alimentation réciproque finalement du complexe industriel portuaire et des trafics portuaires. Et or se développe à l'échelle mondiale une concurrence en matière de raffinage et en matière de produits pétrochimiques. Et en fait, comme je vous l'avais expliqué dans ma présentation, on peut tout transporter, y compris du raffiné, y compris du diesel, de l'essence. On est capable de transporter tout à bas coût. Et donc on a un espèce d'effet boomerang actuellement où finalement l'industrie pétrochimique européenne est mise en concurrence à l'échelle mondiale avec le développement de capacités raffinage dans les pays émergents et dans les pays producteurs de pétrole. Et donc ce qui a fait la rente des ports en fait et des ports européens est actuellement contestée, et donc c'est leur modèle financier qui est en jeu actuellement. Il y a en plus, bon, vous rajoutez par là-dessus les problèmes de dépression économique qui font qu'on a des surcapacités de raffinage à l'échelle européenne, et donc une stratégie des grands groupes, des majors pétroliers qui s'interrogent sur la localisation de leurs raffineries en Europe et sur la fermeture de certaines raffineries. Bien évidemment, les raffineries qui sont touchées en premier sont les raffineries de petite taille, puisque dans l'industrie, on est à la recherche d'économies d'échelle, d'où par exemple à Rouen la fermeture de Petroplus, ou à Dunkerque la fermeture de la raffinerie Total il y a quelques années. Et dès qu'en fait il y a une raffinerie qui ferme, ça se traduit immédiatement pour le port par une chute considérable de ces trafics. Donc là il y a vraiment un enjeu majeur pour les ports européens dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, et qui, je pense, pose aussi une question d'indépendance nationale, d'indépendance nationale à l'échelle nationale et à l'échelle européenne. Est-ce qu'on importe tout, y compris des produits raffinés, ou comment est-ce qu'on fait aussi pour garder une industrie du raffinage en Europe? Alors, vous savez que c'est aussi très dépendant des prix du pétrole, puisque en fait quand les prix du pétrole sont élevés, les marges de raffinage en Europe diminuent. À l'inverse, quand les prix du pétrole sont bas, les marges du raffinage augmentent. Donc là on a eu une baisse des prix du pétrole qui ont fait que les marges de raffinage ont augmenté. Mais vous rajoutez par là-dessus les déséquilibres de produits, où en Europe on consomme beaucoup plus de diesel que d'essence, et donc on importe du diesel des États-Unis, on en exporte on exporte de l'essence à l'inverse vers les États-Unis. Sur votre droite, là, vous avez un bel exemple d'un navire qui est à la fois un navire rouillé, donc c'est un terminal ro-ro, et regardez, vous avez les plateformes, c'est vous avez pour économiser de l'espace, du stockage de véhicules neufs sur plusieurs étages. Donc ça veut dire, quand on fait ça, ça veut dire que il y a vraiment un manque d'espace et une rentabilité à construire ces garages sur plusieurs niveaux pour l'exportation de ces véhicules. C'était un bel exemple de terminal ro-ro. Sinon, vous voyez que l'artère sur laquelle on est, l'artère autoroutière sur laquelle on est, elle est absolument vitale pour le port de Rotterdam, puisque c'est par elle finalement que s'écoulent tous les trafics. Et donc c'est un espèce de cordon ombilical sur les 40 km, et on a systématiquement les sorties qui sont indiquées et qui permettent d'aller vers les zones de raffinage pour les ports. Et de même, cette voie routière extrêmement importante, elle est doublée par une voie ferroviaire. Et puis, bien évidemment, par le Rhin, qui est aussi un cordon ombilical pour aller vers l'Allemagne, vers toute l'Allemagne rhénane. Voilà, donc regardez, on a ici le passage d'un train de produits minéraliers et qui vient sans doute du terminal minéralier de Maasvlakte qu'on va voir prochainement. Et puis là, on va passer devant un train, on va doubler un train de conteneurs. Donc regardez, voilà, c'est du Piano Ferry Masters, alors je sais qui doit aller vers. Alors on a aussi des remorques routières, donc je sais pas si c'est du Short Sea ou du Deep Sea. Voilà, mais vous avez là des beaux exemples avec regardez aussi SBB Cargo International. Il y a bien évidemment une libéralisation du fret ferroviaire à l'échelle européenne, et donc les tractionnaires ne sont plus systématiquement les compagnies nationales, mais vous avez des compagnies de fret dédiées pour la traction du fret. Il y avait des exemples de regarder sur votre droite toujours des conteneurs pour des produits des conteneurs tankers, donc des conteneurs citernes pour des produits chimiques de tout type, et donc ça fait partie aussi de plus en plus du trafic conteneurisé parce que vu le bas coût des taux de fret. Le développement de l'éolien qui devient un enjeu à la fois d'image, qui est tout à la fois un enjeu industriel, puisqu'il y a une véritable filière éolienne qui se met en place à l'échelle européenne, et où les pays du nord de l'Europe ont pris une large longueur d'avance sur la France, et qui est aussi un enjeu d'image pour les ports en termes d'image verte. Donc vous voyez que les emprises de la pétrochimie sont tout à fait considérables. On a vu un tout petit peu au départ des portiques à conteneurs, mais comme vous l'a dit notre présentateur tout à l'heure, pour l'instant on n'a pas vu un navire. Alors c'est vrai qu'on est en retrait, du Rhin. Et donc les navires on ne voit pas les navires, mais c'est quand même une vision du port qui est tout à fait particulière. Je pense aussi intéressant ce matin ce qui a été dit sur 1872 et la création de la Nieuwe Waterweg. Et donc vous voyez que on dit aujourd'hui Rotterdam, c'est le Rhin, il y a une liaison naturelle avec la mer. Non, il y a eu des choix d'investissement qui ont été faits, et ça correspond aussi, 1872, ça correspond à l'unité allemande, au développement de la révolution industrielle en Allemagne. Et donc là, il y a eu un choix fait par les Néerlandais pour en lien avec le développement de la Ruhr, et pour être à même d'expédier les produits de la Ruhr. Vous avez sur la toujours la droite, on a vu un piano, un car ferry qui assure les liaisons avec le nord de l'Angleterre, et donc que ces trafics ferry sont à la fois des trafics passagers, mais aussi des trafics routiers de remorques extrêmement importants qui se font par l'intermédiaire de ces ferries. Donc c'est à la fois hein, du passager touriste, mais aussi beaucoup de fret entre les îles britanniques et puis le continent européen. Donc hein, le 1872, moi j'insiste là-dessus, voilà, il y a des choix d'investissement qui sont faits et qui remontent à des périodes très, très loin, enfin à un siècle. Bon, alors je ne suis pas capable hein, de vous dire là c'est Exxon, là c'est Esso, là je suis des. Mais Martin me dit que là c'est BP. Avoir des portiques là-bas. Typiquement, vous devez avoir sur votre droite une zone d'entrepôt. Pour le port de Rotterdam, là aussi, c'est une chose qui n'est pas évidente, parce que comme le développement s'est fait en allant vers la mer du Nord, vous voyez que le port, finalement, il est assez contraint. Hein, c'est une obsession des ports, l'obsession foncière de la place, puisque sur notre gauche, on tombe sur d'autres types de terrains qui ne sont plus portuaires. Et finalement, les développements d'entrepôts logistiques nécessitent aussi beaucoup de place. Et donc là, comme ça vous a été expliqué, il y a des choix stratégiques qui sont faits en matière d'implantation en fonction finalement du type de fret, du type de logistique qui est nécessaire et qui doit être plus ou moins en relation avec les quais et plus ou moins en relation de proximité avec les quais. Donc là, je pense qu'on a quitté l'aéroport et on est en train d'arriver sur la masse lactée, la première partie de la masse lactée, celle des années 70. Et ce qui est intéressant dans l'histoire de la masse lactée, c'est qu'elle a été conçue dans les années 60, donc pendant la période des Trente Glorieuses, mise en service au moment du premier choc pétrolier. Et alors que les trafics conteneurisés étaient pas encore totalement lancés, et donc cette masse lactée de première génération, elle a eu du mal au départ à démarrer. Et elle a été plus conçue par les concepteurs du port dans une logique d'industrie lourde, c'est-à-dire qu'on disait on va continuer de faire du produit lourd, et il n'y avait pas encore du conteneur. Là, regardez, vous avez un superbe terminal minéralier avec un fraquier, et donc on voit bien les opérations hein, de manutention assez simples via des portiques permettant d'aller dans la cale des navires et de sortir la marchandise. Voilà, c'était indiqué un district park masse lactée, et donc sur la masse lactée, il y a des zones logistiques qui ont été installées, mais sont importantes, mais où il y a en termes de gestion de l'espace finalement une contrainte relative en termes d'espace. Donc là, vous voyez, c'est les terminaux, le terminal vraquier. Derrière, vous avez le terminal conteneur. Rappelez-vous les photos que vous avez vues. C'est les deux grandes darses de masse lactée, avec le terminal vraquier et le terminal à conteneur qu'on voit, je pense, sur notre droite, et avec les emprises ferroviaires qui permettent de former directement des trains en arrière des terminaux à conteneurs. Donc vous avez compris le système, hein, on est dans un port landlord où donc le port s'occupe de tout ce qui est aménagement. Par contre, il y a une séparation des fonctions, donc les terminaux, c'est du domaine de compagnie dont c'est la spécialité, donc des compagnies de manutention. Et par exemple, les grues bleues, totalement bleu là que vous voyez au second plan, donc c'est un terminal d'AP Moller Terminal, donc APMT, qui est une filiale du groupe danois AP Moller, donc AP Moller qui est la grosse, le gros conglomérat danois de transport maritime, qui détient aussi la première compagnie mondiale qui est Maersk Line. Et donc ce gros conglomérat, hein, qui est un qui est détenu par une famille, hein, la famille Moller, a donc sa filiale de terminaux, qui est le deux ou troisième opérateur de terminal à l'échelle mondiale. Et je pense que, je pense que je ne vous raconte pas d'histoire, mais je pense que sur la droite là-bas, sur la gauche, pardon, j'ai des problèmes de latéralisation, merci Martin. La gauche, je pense que c'est Maasvlakte 2 et c'est le nouveau terminal APMT de Maasvlakte 2 qui est un ancien, qui est un terminal entièrement automatisé, qui est un terminal entièrement automatisé et paraît-il avec l'énergie, de l'énergie verte pour l'électricité. Voilà. Il sera intéressant de demander, alors là aussi intéressant, comme Maasvlakte 2 de première génération, Maasvlakte 2 a été très clairement conçu pour, le navire que vous avez sur votre gauche, c'est des très gros navires de porte-conteneurs de dernière génération de plus de 15 000 EVP, parce que vous voyez, vous avez le château qui est au milieu et les cheminées du navire qui sont à l'arrière, et donc ça c'est des navires de très très grosse capacité de plus de 15 000 EVP, et donc dont on verra le je pense qu'on va passer au pied tout à l'heure. Donc ce qui est intéressant, c'est que le Maasvlakte 2 pareil a été conçu dans une période de forte croissance des trafics de conteneurs, et on arrive depuis 2008 à pour la première fois depuis 30 ou 40 ans dans une hésitation autour du trafic de conteneurs, c'est-à-dire est-ce qu'il va poursuivre sa croissance aussi forte ou au contraire est-ce qu'on n'est pas arrivé à une espèce d'asymptote. On peut se poser la question. En tout cas, actuellement les taux de fret, hein, c'est, je crois que je vous en avais parlé, sont extrêmement faibles sur le trafic conteneurisé. Et donc avec des grosses restructurations en cours entre les compagnies maritimes et notamment des systèmes d'alliance très forts entre les compagnies maritimes. Voilà, donc là on arrive, hein, à la zone d'exposition de Maasvlakte 2. Et donc voilà, vous avez un très gros porte-conteneurs. Vous demanderez la capacité, mais je pense que ça fait partie des plus gros de portes à conteneurs. Bref, vous êtes sur une zone portuaire, ce n'est que du bonheur.